Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Mustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une des radios partenaires du studio Kalangou dans la ville de Zender. Le forum, c'est un rappel, est diffusé via un réseau dynamique de 47 radios partenaires à travers le Niger. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Choukoura sur le 105.5 MHz. Aujourd'hui, notre émission porte sur le thème « Faible rendement aux examens du BEPC et du BAC à Zender, que faire ?» Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012, plus de 50% de la population du Niger a moins de 15 ans. L'éducation de cette frange de la population se présente comme un défi pour les autorités du pays afin de parvenir au développement car le capital humain est assurément déterminant. Malheureusement, on assiste à une baisse de niveau depuis la fin des années 80 et qui tend à se généraliser de nos jours. Les impacts sont surtout ressentis aux examens de fin d'année qui sont de moins en moins bons. Cette année, le taux de réussite aux examens du BEPC et du BAC tourne autour de 20% contre environ 40% l'an dernier à Zender, ce qui implique un taux d'échec d'environ 80% lors de ces deux examens. La situation ainsi observée d'année en année nous interpelle et nous amène à nous interroger sur les questions suivantes. Où situer les responsabilités de la baisse de niveau et des échecs importants sur l'ensemble du pays en général et à Zender en particulier? Quels sont les enjeux à court, moyen et long terme? Quelles mesures entreprendre pour redresser la situation? Pour discuter, nous recevons sur ce plateau El Hadj Siraj Rabiou. Il est inspecteur pédagogique régional IPMAT. Monsieur l'inspecteur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, bonsoir.
Nous avons également Monsieur Liman Tingri. Il est un cadre de l'éducation à la retraite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également M. Gali Daouda, enseignant Cré en main et secrétaire général du Syndicat national des enseignants du Niger, section de Zender. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez ce soir, nous parlons autour du thème « Faible rendement aux examens du BEPC et du BAC à Zender, que faire ?» Nous commençons par vous, Liman Tingri. Quels sont les mots qui minent l'éducation aujourd'hui ?
Bien, merci pour nous regrouper et échanger sur un thème très important, l'éducation. C'est un sujet évidemment qui intéresse toute la communauté. Les défis donc de l'école donc au Niger sont nombreux. Vous l'avez déjà mentionné donc dans votre présentation là tout à l'heure en parlant de la jeunesse de la population. C'est même autour de 60% hein, qui ont moins donc de 15 ans, selon le tableau de bord de l'INES là que j'ai lu, donc le dernier. Donc vous voyez déjà l'ampleur donc du défi. Donc cette importance évidemment donc de la population. Et le premier défi à mon avis c'est la couverture. Comment parvenir à scolariser donc de plus en plus les enfants. Nous n'avons pas de ressources importantes et bien entendu tous les secteurs sont prioritaires et bien entendu le secteur de l'éducation vient en tête. Le président l'a dit, vous avez parlé du capital humain, donc ça résume tout ça. Comment faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école et terminer donc le premier cycle du secondaire, qu'il faut obligatoirement que les enfants donc soient scolarisés donc jusqu'à l'âge de 16 ans. Le deuxième, à mon avis, c'est celui de la qualité. Et là, avec les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, là, ça évoque cela. Donc, si on prend le rendement au niveau du système éducatif, là, c'est le rendement interne que vous avez montré tout à l'heure, là, c'est-à-dire les taux de redoublement, les taux de réussite aux examens, c'est par là qu'on mesure donc le rendement interne. Et vous voyez donc, ce rendement est très faible. C'est comme si on est en train donc de gaspiller de l'argent. Un autre élément, c'est le problème de l'équité, je veux dire la justice sociale. Comment faire en sorte que tous ces jeunes-là aient les mêmes droits, ceux qui sont en milieu rural, en ville, les garçons, les filles. Et vous savez qu'on a une importante prédominance féminine, donc au Niger, là, les femmes, elles constituent, donc selon le dernier recensement, là, 50,3 ou 5%. Et on voit également dans nos établissements là qu'il y a plus de garçons que de filles. Et également si on prend la zone urbaine et rurale là, c'est en défaveur de la zone rurale où donc beaucoup de jeunes ne sont pas scolarisés. Et je vais terminer par un dernier point là, c'est toujours lié à la qualité là, c'est par exemple les débouchés. Donc si les enfants travaillent, réussissent à l'école là, c'est pour qu'ils aient des emplois décents quoi. Que ce soit pour l'État, dans le public ou le privé.
Monsieur l'inspecteur, la SRAJ, comment appréciez-vous les résultats scolaires ces dernières années à Zinder et au Niger de manière générale?
Vous l'avez dit à l'introduction qu'il y avait eu un problème depuis les années 80. Donc si on essaie rapidement de voir une petite parenthèse historique, il y a une petite crise économique qui avait touché les pays de la zone franc dans les années 80, c'est les pays d'Afrique. Ils sont retrouvés à deux reprises dans les pays des Grands Lacs. Et puis une conférence à Harare, fin juin 1982, organisée par l'UNESCO, la CIA et puis l'OIA, qui parlait de l'éducation et du développement endogène en Afrique. Et les économistes de ces temps-là pensaient beaucoup qu'on met beaucoup d'argent dans l'éducation. Et qu'ils ont des problèmes, il faut les mettre quelque part. À titre d'exemple, il dit qu'il faut diminuer les élèves à l'interne. Les internats consomment les 50% de ce qu'on met dans l'éducation dans l'enseignement secondaire. Ce courant a fait tâche de l'impé partout. Ce que nous avons assisté au Niger dans les années 82-83, avec ce qu'on appelait le grand débat des Zinder, qui est de l'autre côté, les scolaires appellent le grand débat des Zinder, qui a mis fin à tous les internats, qui revue l'assiette financière du point de vue éducation. Et là, il y a une direction logique qui est là. Je vous donne ces chiffres-là. De 1963 à 1982, une seule fois, on a eu moins de 60% au BPC. C'était en 1969 où on a eu 49,1%. Mais de 83 à nos jours, deux fois, on est venu à être un peu supérieur à 50%. Donc à 98, on était à 54%, en 2005 à 55,5%, qui aussi sont en réalité des résultats un peu contestés par cette manière. Donc il est clair que ces passages historiques qui a fait que nos États se sont retirés, tous les États francophones de la zone franc, donc a eu impact et a créé une nouvelle école. Et venu après, c'est venu perdre la perte un peu de l'autorité de l'État, qui a eu dans les années 90-82, on a eu perte, et maintenant les autorités scolaires ont perdu leur puissance devant le système. Donc l'école, c'est parfois un système d'output-input. En regardant ce qui est mis là-dedans, et bien ce résultat-là est proportionnel à ce qui est investi à l'intérieur. Donc, il fallait revoir les choses comme ça se doit. Si on regarde un peu ici chez nous ce qui se passe, l'essentiel, nous avons comme problème la gestion du temps scolaire qui nous cause énormément de problèmes. Parce que tous ces problèmes sont d'ordre généraux, on les a un peu partout. Mais, principalement à Zinder, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la mise en application correcte des temps scolaires. La démission ou l'absence des parents, une faible implication des parents dans le système éducatif, avec bien sûr quelques manques de professeurs par-ci, par-là. Donc ça agit sur les résultats ces dernières années.
Monsieur Gali Daouda, pourquoi, selon vous, on assiste à cette perte de vitesse sur les résultats scolaires?
Et ceci s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs. Et le premier facteur, tout à l'heure, l'inspecteur l'a parlé, le temps scolaire qui est beaucoup impacté. Plus particulièrement à Zinder, nous avons connu à un moment donné de l'histoire, ces trois dernières années, une grève sans précédent des scolaires, où chaque semaine, on arrive à perdre 2 à 3 jours. Or, dans le système éducatif, lorsque le temps scolaire est infecté, il va de soi que les résultats à la fin de l'année ne seront pas à l'attente. Donc, c'est pourquoi les débrayages des élèves, et quelquefois aussi ces débrayages des élèves, et appuyés par les débrayages, en tout cas des anciens, parce que la situation du pays fait en sorte que, malgré leur effort de consentir à l'effort, en tout cas du gouvernement, les anciens seront aussi contraints à un moment donné d'aller en mouvement parce qu'ils ont des revendications qui tardent encore. Donc, tout ceci, en tout cas, ont pour conséquence une grande perte de temps scolaire. Or, le programme est échelonné sur une année. Lorsqu'on arrive à perdre le temps, ça veut dire que certaines parties du programme ne seront pas achevées. Le deuxième facteur aussi que je juge très important, c'est l'environnement même scolaire, ne cadre pas avec la logique du processus enseignement-apprentissage. Nous avons des classes pléthoriques. Généralement, quelles classes? C'est des classes à part. Où vous allez trouver 100 élèves, plus de 100 élèves par classe, avec un seul enseignant. C'est normal qu'en tout cas, quand l'enseignant dispense le cours, le message ne puisse pas être écouté ou ne puisse pas être attendu par d'autres camarades. Nous avons aussi l'insuffisance de fournitures aujourd'hui. Bon nombre des enseignants se débrouillent parce que l'État n'arrive pas à doter les établissements scolaires en manuels et fournitures. Or, certains manuels ou certaines fournitures sont d'une grande importance dans le cadre pédagogique pour bien enseigner, parce que la maîtrise du contenu et même la démarche à suivre aussi peuvent être guidées par ces manuels-là. Un autre facteur, pas de moindre, qui aux îles nocturnes, c'est la qualité même des prestations des anciens. Mmh. Aujourd'hui, avec la contractualisation, chose que nous avons toujours combattu. Et je dois aussi rappeler en Afrique de l'Ouest, il y a que deux pays qui ont maintenu le système de contrat. Les autres, quand ils ont mis en terrain, ils ont constaté que ça ne va pas. Parce que c'est des jeunes Nigériens. Après plusieurs années d'études, ils sortent, on les oblige à aller vers le contrat. Et d'abord, le contrat, souvent, c'est en, peu importe le profil. Parce que pour prendre le contrat, on ne tient pas compte du profil. Deuxièmement aussi, c'est la politisation de l'école à outrance. À un certain moment donné de l'histoire, au Niger, on constate que même les nominations, même les directeurs de l'école sont nommés sur des bases politiques. Et ces gens-là qui pensent qu'ils sont nommés sur la base politique, en tout cas, ils ne font pas correctement leur travail. Ou même s'ils le font, ils le font d'une autre manière, de telle sorte qu'ils sont sûrs que derrière, il n'y a en tout cas pas quelqu'un qui peut les obliger à faire correctement leur travail. Et on a eu à constater, normalement, on n'a pas mis des gens qu'il faut à la place qu'il faut.
Monsieur Tinguy, l'éducation familiale, c'est un véritable pilier qui tend à disparaître aujourd'hui. A-t-elle un impact sur les résultats scolaires?
Oui, je pense, certainement. Mais avant d'en venir, j'aimerais dire encore un mot aussi sur ces faibles résultats-là. À mon avis, la cause principale, c'est le volontariat, la contractualisation et aussi dans les établissements privés, par exemple, la vacation. Au lieu de recruter des enseignants là, dès le départ, ils ont cette obligation-là de prendre au minimum 3. Ils se contentent de prendre donc des vacataires. Et de l'autre côté, la contractualisation là, le SG l'a dit, et vous trouvez toutes sortes donc de diplômés qui viennent à l'enseignement. C'est pas pour enseigner, hein. En réalité, c'est qu'ils se servent de l'enseignement comme un tremplin. Dès qu'ils ont une meilleure situation ailleurs, ils s'en vont. Donc la fonction enseignante là est banalisée. Si vous venez, vous allez voir par exemple pour enseigner maths là, vous allez trouver toutes sortes de diplômes. Vous allez trouver par exemple des géographes, des économistes qui enseignent maths. Français, là, vous allez trouver des psychologues, des sociologues, des juristes, ainsi de suite. Dans presque toutes les disciplines, donc, nous avons vraiment toutes sortes donc, de diplômés qui enseignent et sans formation, évidemment, bien entendu, pédagogique. Et dès qu'ils ont une meilleure situation, ils s'en vont. L'enseignant est banalisé, il n'a pas de revenus importants, il n'est pas dans de bonnes conditions. Dans le temps, à un moment donné, là, pendant Kounsé, là, on avait de bons salaires, des indemnités importantes, mais après, presque tous les corps nous ont dépassés. Par rapport à l'éducation familiale, là, c'est sûr. Donc, les parents, ils doivent s'impliquer et ils ne le font pas assez. Ils ne viennent même pas aux réunions donc, des parents d'élèves, des COGES et autres. Là. Ils ne participent pas en réalité. C'est comme s'ils ont, je veux dire, même démissionné de leur rôle. Et c'est vrai que dans le temps, donc, l'éducation familiale, là, elle est importante. Et d'ailleurs, on dit que l'école instruit. L'éducation, la vraie éducation, là, c'est les parents qui la donnent. Pour essayer, donc, d'avoir une éducation correcte, là, c'est les parents qui inculquent, donc, un certain nombre, donc, de valeurs à leurs enfants. C'est-à-dire, même si vous comprenez pas français, vous ne pouvez pas aider l'enfant dans les devoirs, là, au moins, vous lui inculquez de bonnes valeurs. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Hein? La réussite, là, c'est au bout de l'effort. Et d'ailleurs, par le passé, c'est toute la communauté qui éduque l'enfant. Les parents, ce qu'ils devraient faire, c'est bien entendu donc de suivre la scolarité, voir si les enfants étudient, quels sont leurs amis, ainsi de suite. Et vous voyez, les enfants eux-mêmes, donc, ils ne s'adonnent pas bien aux études. Là, maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux, sur les jeux, etc., etc., quoi.
Monsieur l'inspecteur, quel est le niveau de responsabilité des différents acteurs du système dans cette dégradation progressive du rendement à l'école?
C'est bien lié avec ce que M. Fabien dit.
C'est ça.
Tout à l'heure, je vous disais que les parents ont démissionné. Demain, c'est ce que vient d'expliquer Moustapha. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller lorsqu'on convoque des réunions de parents d'élèves dans les établissements. Un établissement de 3000 élèves n'a jamais eu de problème pour faire une réunion de parents d'élèves. C'est toujours dans une salle de classe que les parents de 3000 élèves se retrouvent. Vous comprenez que moins de 50 personnes arrivent. Maintenant, les responsabilités, effectivement, sont partagées à tous les niveaux. D'abord, du niveau des... Moi, j'aimerais compléter acteurs et partenaires. Au niveau de l'État, je vous ai parlé un peu tout à l'heure de comment... Historiquement, nous sommes arrivés ici. Derrière ça, il fallait augmenter la suppression de l'école de pédagogie, donc qui avait impacté sur la qualité de l'enseignement. Donc, tout à l'heure, les SG parlaient aussi de l'aspect, le volontariat arrivé, la condition arrivée. Tout ça, là, c'est du point de vue côté État. Le premier responsable, c'est l'État, parce que l'État, c'est tout le monde. L'école exige du moyen. L'État doit chercher le moyen pour l'école. Ce que je veux dire, il ne s'agit pas de dire à l'État de prendre tout en charge dans la caisse. Mais l'État doit créer des conditions. Quand on avait voulu faire des matchs contre le gouvernement, on a banalement fixé et ramassé 2 milliards de francs, c'est pas à travers les cellules folinaires et les cellules folinistes pour avoir des francs pour soutenir l'équipe nationale. Oui. C'est une bonne chose. On a même fait des taxes spéciaux pour l'éducation. Certains parlent de fonds. spéciale pour l'éducation pour qu'on arrive à la financer. Ouais. La Lausanne prévoit un partage du coût de l'éducation. L'État doit augmenter ce qu'il est en train de faire et demander aux parents, aux sociétés de la place et aux autres entreprises de la place pour aussi apporter une contribution pour qu'on essaie de financer correctement l'éducation. Parce que sans ça, comme nous savons, c'est des pertes d'argent. Là où il faut 1 milliard, vous mettez 800 millions, vous avez perdu ça. Donc ça, c'est le premier passé responsabilité côté État. Maintenant, si on vient à notre niveau, donc partout, chacun doit se ressaisir. C'est une affaire de tout le monde.
Ouais.
Les partenaires, je félicite les enseignants, toute corporation réunie, parce que ces trois dernières années, on est obligé de voir quand même qu'il y a une accalmie. C'est vrai, il y a des perturbations, mais il y a une chérie accalmie. Des programmes sont là, entassés derrière. Mais ils ont fait l'effort. C'est ça que je lance un appel aussi à ce que nos enfants doivent faire cet effort-là. Parce que le temps scolaire est déterminant. Les enfants et nous, les parents, si je prends cette parole maintenant, nous devons venir s'approprier de l'école, s'investir. Quand il y a réunion, quand il y a collège, tout le monde doit venir s'intéresser à l'école. Tout le monde doit être à l'école. On ne peut pas amener des revendications 2 semaines sans faire cours parce qu'on vous a empêché de faire une fête, une commémoration. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'on arrive, certaines choses, même si c'est du droit, de faire l'effort pour les mettre en veilleuse devant l'essentiel.
C'est ça.
L'essentiel. Du côté du partenaire syndicat, on doit faire un effort pour rendre presque effectif le temps scolaire. L'administration scolaire doit, d'une manière générale, je parle depuis les directeurs, jusqu'aux décevants, jusqu'aux directeurs, jusqu'aux encadreurs que nous sommes. Chacun doit s'y mettre pour assumer sa part des responsabilités. Le temps scolaire, ce n'est pas seulement l'affaire des grèves ou des sifflets. L'essentiel de nos cours commence à 8h15. Chaque jour, combien de temps on est en train de perdre? Il y a les problèmes de paillotes qui sont là, que le police peut faire quelque chose. Rentrée tardive, fin d'année prématurée. Donc ce qui fait que on se trouve avec 4 à 5 mois de cours. Il y a près de 100 facteurs qui influencent sur les temps scolaires. Et ça, l'essentiel, c'est au pôle des partenaires et de l'administration qui gère l'école immédiatement.
Monsieur l'inspecteur, par rapport aux paillotes, au démarrage là, est-ce que le fait qu'on délègue cette responsabilité aux mairies peut apporter un petit changement?
Oui, le problème qui se pose, c'est que les textes empêchent aux mairies d'intervenir dans les secondaires. C'est le conseil régional qui est habilité à intervenir au secondaire. Voilà où le problème se pose. Quand un maire prend de l'argent finance, à moins que le texte change, ça devient du détournement. Or, à l'heure actuelle, le conseil régional n'est pas comme les mairies. Il n'a pas de source où il peut avoir donc, un peu de sous comme eux. Donc, il s'attend à parfois des redevances ou des trucs comme ça pour pouvoir travailler. Donc, le problème se pose en ce sens-là. Nous sommes les seuls dans la sous-région où on n'a pas de manuel scolaire. Tous les pays là, comme on dit, ils ont leur propre manuel scolaire au secondaire. Au primaire, on a fait un effort. Les deuxièmes de cela, on a des manuels qui sont faits à l'INRAP et qui sont là. Mais après quelques deux ou trois livres, moi, que j'ai vu des maths qui concernent les secondaires, ça m'a fait par l'INRAP.
L'anglais aussi.
Oui, et l'anglais aussi. Il n'y a pas présentement des livres qui sont conformes au programme. Parce que même ceux qui ont été pris sont dépassés.
Nous
sommes au programme. Conformes au programme, il n'y a pas de production nationale sur le marché. Il y en a. D'autres gens ont fait, mais ce n'est pas sur le marché. On ne peut pas faire une école. Vous partez dans un établissement, il n'y a aucun livre.
Monsieur le secrétaire général du CNEN, nous allons poser une question, la même question à tous les invités. Comment mesurez-vous l'ampleur de la baisse du niveau et des échecs scolaires? Nous parlons particulièrement du Zender.
La baisse du niveau des élèves et des échecs scolaires est notoire et généralisée pour en ce qui nous concerne au niveau du Niger même, en particulier au niveau des Zender. Moi, j'ai toujours dit dans mes interventions qu'elle est même au stade d'inquiétude. C'est-à-dire que les parents d'élèves et les acteurs de l'école doivent s'inquiéter aujourd'hui de la baisse du niveau d'une manière générale, en tout cas qui se constate du jour au lendemain. Nos enfants, en tout cas, ont un très faible niveau. Et c'est ce qui déjà nous amène aujourd'hui dans les classes où on a carrément coupé certains principes d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater même au lycée, en classe de terminale, par exemple, au philo, on pose des questions. En français, c'est des petits textes qu'on donne. Aujourd'hui, au collège, il y a ce qu'on appelle la dictée, là. Aujourd'hui, qu'on est en train de faire, où on demande aux élèves de corriger. Tout ceci, là, s'explique par la baisse du niveau. Donc, ça veut dire que ça, là, doit nous interpeller et on doit chercher à corriger. On ne doit pas permettre à continuer en sorte que, parce que à un moment donné de l'histoire, on va arriver même la dictée, comment on l'appelle, la dictée motivée ou la dictée
lacunaire.
Ça là, on va arriver aussi à une autre forme de dictée, ou en tout cas ce n'est plus une évaluation et que vraiment rien ne peut être.
Mais comment justifier l'échec particulier de Zender?
Particulier de Zender, nous avons dit, donc je suis en train de partir, à partir de la baisse du niveau, les résultats ne peuvent être que des échecs scolaires. Et ceci, en tout cas, ont été exprimés au niveau des classes de 6e, au niveau des classes de seconde et dans les classes d'examen. Parce que chaque année, à Zender particulièrement, lorsque la direction régionale des enseignements secondaires sort les chiffres de taux de redoublement exclusion, maintenant les radios de la place ou les parents d'élèves autres, en tout cas, s'agitent. Parce qu'ils constatent que c'est un taux assez important d'échec. Et là, nous, la question que nous posons tout à l'heure, et l'inspecteur a dit, en tout cas, une démission presque totale des parents. Les parents d'élèves au niveau des Zender ne jouent pas pleinement leur rôle. Or, il y a des initiatives. Je pense qu'à travers les structures d'appui, qui sont les CGDS et le COGES au niveau du primaire, ils doivent, en tout cas, s'en approprier, comme il l'a dit, de l'école et faire des anticipations pour voir maintenant est-ce qu'à partir, même les évaluations à mi-parcours, peuvent en tout cas amener les parents d'élèves et les structures communautaires là, à réfléchir et à voir comment on va remédier pour éviter des taux d'échec scolaire assez importants. Malheureusement, on l'a fait cette année avec le résultat du BPC, qui est de 15,4%. Ça veut dire que cette année, rien que cette année, au niveau des classes d'examen, on aura un grand effectif. Mais jusqu'à présent, aucune structure d'école ou aucun chef d'établissement n'a pensé à voir maintenant comment il va apporter des solutions urgentes par rapport à cet effectif-là. Il faut attendre la rentrée ou rien que les constructions des classes peuvent prendre banalement 1 à 2 mois. Là, on va amputer le temps scolaire. Et ça aussi, ça va comme corollaire l'échec scolaire. Donc, vous conviendrez avec moi. Vraiment, là aussi, à ce niveau, nous nous interpellons plus particulièrement les parents d'élèves, les structures d'appui communautaire et même les élèves d'une grande partie. Heureusement, à Zander, cette année, nous avons eu beaucoup de réunions avec les bureaux des structures d'élèves pour les calmer, pour les comprendre, parce qu'il faut savoir que nos enfants, là, aujourd'hui, qui dirigent les bureaux des scolaires, c'est des élèves qui n'ont aucune notion syndicale. Et la plupart d'entre eux, d'abord, ce sont des élèves qui n'ont pas le niveau. Pour eux, l'école, là, l'essentiel pour eux, c'est d'être au bureau. Donc, c'est pourquoi là, il faudrait aussi ensemble qu'on prévoit un cadre pour pouvoir maintenant qui peuvent être membres du bureau désormais. Parce que si, comme avant, vous allez constater que tous les membres du bureau, c'est des élèves qui travaillent. Et à la fin de l'année, ils passent correctement à leur examen et ils continuent. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et là, je pense que cette situation-là, on doit la changer. Et là, pour la changer, c'est ensemble avec les parents d'élèves, soit avec les autorités académiques et les autorités administratives. Il faudrait qu'on explique l'enjeu. Et ça, j'ai dit, moi, c'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait un forum. Parce que toutes les questions éducatives, les solutions ne peuvent être trouvées à travers un forum où chaque couche va apporter sa solution.
Monsieur Liman Tingiri, vous êtes un ancien cadre de l'enseignement. Comment mesurer l'ampleur de la baisse du niveau et des échecs scolaires, particulièrement à Zender, où on assiste ces dernières années? Si la région n'est pas dernière, elle est avant-dernière.
Si on prend les redoublements, les exclusions, principalement en classe de 6e, exclusion des élèves, donc en 6e là, c'est au minimum 20%, voire au-delà jusqu'à quelquefois 40%. Si on prend donc là, j'ai les chiffres par exemple des inscrits au BEPC pour montrer donc la dégradation. Donc voyez-vous donc cette année-là, le résultat, on a dit c'est 15% à Zender. Le résultat le plus intéressant, c'est Niamey, autour de 35%. Mais je veux parler des inscrits. Vous savez que Zender là, c'est la population la plus importante donc du pays. Maintenant, on est 4-5 millions, c'est la population la plus nombreuse. Et pourtant, voyez-vous, donc les inscrits, maintenant, je vois à Zender, pour le BPC passé, là, on vient d'enregistrer 19 783. Et Maradi à 32 616. Et donc, vous voyez, donc vraiment, ça ne va pas. Hein? C'est parce que les enfants donc ne vont pas en grand nombre à l'école, ils sont renvoyés, c'est à cause justement donc de cela. Au niveau du budget de l'État, là, le gouvernement a prévu par le passé 25, maintenant on a un peu revu ça, dire donc 22%. 22% c'est aussi important, il faut le dire, parce que tous les secteurs au Niger sont prioritaires. Et si on met 22% réellement dans l'éducation, c'est déjà bon. Et tout à l'heure il l'a dit, moi je ne comprends pas pourquoi la question de l'éducation là, c'est pas seulement l'État. Tout le monde, c'est vrai, doit participer, le président l'a dit, c'est une affaire de toute la société. Et justement les parents d'élèves, ils participent à travers les COGES et autres là, ils construisent beaucoup de places, ils participent à l'entretien donc des écoles. Moi, je pense que ceux qui ne participent pas de manière importante là, dans ce qui est cité au niveau de la Lausanne là, c'est par exemple les entreprises, les industries, hein, les grandes succursales de la place là, vraiment, elles font juste des petits gestes là, une classe par-ci, par-là. Et ça aussi, quelquefois, c'est pour leur publicité. Et aussi pour collectivités locales, les mairies, là, il faut l'avoir, revoir. Ils participent au primaire, mais pas au secondaire. Pourtant, c'est leurs enfants, ils sont... C'est vrai, le conseil régional, là, sur le plan territorial, là, il peut s'occuper de la région, on est d'accord. Mais même les mairies, là, elles doivent participer. Maintenant, au-delà, il faut penser à autre chose. On le dit depuis la conférence nationale. On ne l'a jamais fait, je ne comprends pas. D'autres pays, par exemple, prenons à côté le Nigeria, là, ils l'ont fait. Et le président actuel, Buhari, là, a dirigé le fonds de l'éducation. Il faut qu'on crée un fonds de l'éducation. Et on va déterminer qui doit cotiser, quel montant, ainsi de suite, quoi. Et maintenant, on met des hommes intègres, là, qui vont diriger cela. Donc ça, c'est la participation donc, de la communauté. Moi, je pense que si on veut financer l'éducation, donc là, comme il l'a dit, il faut mettre beaucoup de moyens. Et ces moyens, 22%, c'est important, mais ce n'est pas suffisant.
Nous donc il faut créer aujourd'hui un fonds de l'éducation. Un pays producteur du pétrole, certains ont proposé 1 franc par litre. C'est insignifiant et ça peut être une grande somme.
Là également, donc, vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc je pense qu'il faut revoir la question donc, du financement là.
Monsieur l'inspecteur, la même question, comment est-ce que vous mesurez l'ampleur de la baisse de niveau ici à Zinder et les échecs scolaires aussi?
Franchement, ça atteint un niveau très critique et ça se manifeste par les chiffres. Pour cet examen du BPC, nous avons 9 établissements sur les 238 qui ont eu un taux de réussite supérieur à 50%. Soit à environ 3,5%. Mais nous avons 31 établissements qui ont fait néant au BPC. Donc 600 villes. Si vous prenez le pourcentage, ça fait 13,02%. Et ça, quand vous regardez les anciens chiffres, ça croît d'une manière exponentielle. Dans les années passées, quand nous faisons le bilan, donc on trouve 2-3, on est arrivé à 4-10, mais cette année, on est arrivé à 31. Donc ça a pris tellement une certaine ampleur que le résultat ne peut être que ça parce que c'est lié, ça dépend de ça. Alors, c'est devenu tellement inquiétant que si vous regardez même au niveau maintenant de l'État, on est en train de se demander est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter le départ à la retraite. Parce que cette baisse du niveau a produit et c'est même arrivé dans les différentes fonctions publiques et privées. Donc ici, chez nous, vous voyez que nous sommes peu performants par rapport aux concours qui sont en train de se dérouler. Sur le plan national, récemment, l'essai d'excellence, on n'en a eu que 3. Si on peut prétendre militaire, on n'en trouve pas, ainsi de suite. Donc ça, ce sont ces conséquences-là de ce baisse du niveau qui, lui, est corollaire de tout ce qu'on a dit derrière.
C'est ça.
Que vous partez dans les âges de ces enfants, vous allez trouver du début à la fin, il n'y a presque aucune phrase complète. Ça se fait en langue. Dans l'ancien temps, c'est elle les démonstrations. Qui maîtrise, qui connaît, qui fait. Mais maintenant, quand vous rentrez dans nos établissements, vous sentez qu'au juste, on se pose cette question-là. Quelle langue d'enseignement? Et il y avait une étude qui a été faite, qui est nationale, sur les niveaux des enfants en français et en maths. Au secondaire, le pourcentage de nos enfants qui ont atteint les seuils qu'on appelle acceptables est de l'ordre de 2%. De l'ordre de 2%. 2%. On est très loin de la moyenne nationale. On a le classement quelque part du dernier, d'avant-dernier, parce que c'est par niveau. C'est des tests qui font régulièrement certaines institutions. On vient en fait, même présentement, les dresses à Béjean et le conducteur sont partis pour une rencontre pour ça. On a fait un contrôle des acquis scolaires qui montre quel est le degré de maîtrise des compétences exigibles des élèves à certains niveaux. Donc, on l'a fait à 3 reprises pendant ces 20 dernières années. Et chaque fois, notre situation est très préoccupante. Elle est difficile et c'est difficile de la lire.
Par rapport à la meilleure discipline à l'école, quelles solutions peut-on préconiser, M. Gali Daouda?
Les solutions qui peuvent être apportées à tous ces périodes-là sont de plusieurs ordres. Et nous avons, nous, pour nous, comme priorité, en tant que syndicalistes, selon notre réflexion, que la valorisation de la fonction enceinte. Et ce n'est même pas seulement avec la contractualisation, parce que le fait qu'on prenne des anciens comme contractuels, qui dirait ça à tout moment, ils peuvent abandonner avec un faible revenu. Je pense que ça, là, ça a créé, en tout cas, du dégoût pour la fonction enceinte. Ce n'est pas ancien QV. Avant, ce n'est pas n'importe qui qu'on oriente dans le domaine de l'éducation. C'est un choix sélectif. Toujours dans le même ordre d'idée, il faut attribuer une allocation salariale beaucoup plus importante qui permet à l'enseignant d'être à l'abri, en tout cas des crédits ou de certains problèmes au niveau de la famille. Et parce que lorsque l'enseignant est dans de très bonnes conditions, je pense qu'on peut l'exiger de lui tout et il est aussi dans les situations lui-même d'innover. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils produisent des résultats. Autrefois, quand nous, on nous enseigne, nos enseignants ont l'habitude de nous ramener la nuit juste pour étudier, parce qu'ils ont la vocation, ils ont l'amour de ce travail. Il y a aussi qui font, en tout cas, qui se débrouillent pour le maraboutage, pour pouvoir produire un résultat. Le deuxième aspect que nous reconnaissons, c'est la redynamisation du système éducatif. Aujourd'hui, nous avons un système éducatif faible de la région. Il faut que l'État alloue aussi des allocations assez conséquentes. C'est vrai, tout à l'heure, dans le discours du président, on a rehaussé l'allocation au niveau du système éducatif de 22%. Maintenant, le problème, nous, ce que nous avions dit, et même au niveau de la rencontre entre le président de la République et le partenaire de l'école, nous avons dit allouer ces ressources-là ne suffit pas. Il faut suivre, est-ce que, en tout cas, ces ressources qu'on avait allouées sont parties à la destination. Le troisième aussi, c'est la collaboration des partenaires et du PTF. Ici, je voudrais peut-être attirer l'attention, parce que l'éducation est une chose éminemment sociale qui requiert, en tout cas, et la concertation et l'acceptation de tous. Tant que chacun, pour ses raisons, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas faire ces sacrifices-là pour, en tout cas, être en symbiose afin d'apporter une solution efficace au problème de l'éducation, je pense qu'il va toujours avoir aussi des insuffisances. Et ces insuffisances-là peuvent être à la base de ce que nous avons évoqué tout à l'heure tantôt. Mais aussi la dépolitisation de l'école. Et vraiment, l'école est d'une importance capitale. Aucun pays, et la preuve aujourd'hui, est tellement au regard des gens, et de l'importance de l'éducation. Récemment, le président de la République avait participé à un sommet qui s'est tenu à Londres sur l'éducation, où il faudrait maintenant, à chaque au niveau de tous ces pays-là qui participent à ce sommet-là, comment allouer un budget conséquent pour l'éducation des jeunes, en particulier les jeunes filles. Et c'est ça, là, ça s'inscrit dans le cadre de la récupération des jeunes filles ou avec la création des internats. Et vous allez constater avec moi, même si ces internats ont vu le jour, tant que des mesures rigoureuses n'ont pas été prises, je pense qu'il allait suivre le même sort, à tel point où à un moment on va demander leur permis.
Monsieur Tingiri, le mode d'évaluation est-il efficace pour les élèves? Sinon, comment le rendre plus efficace?
Bon, je ne vois pas de problème particulier au niveau de l'évaluation. L'évaluation que les enseignants ont l'habitude de faire là, c'est l'évaluation sommative et l'évaluation formative pour essayer de mesurer donc l'atteinte des objectifs. Et d'un autre côté là, c'est les notes qu'ils ont l'habitude de faire là pour que les élèves passent en classe supérieure ou aux examens. Donc l'évaluation à proprement parler, bon, c'est aussi comme le métier là, donc c'est quelque chose qui s'apprend.
Alors est-ce que les notes reflètent réellement le travail des enfants aujourd'hui?
Oui, je le pense. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. C'est peut-être donc là, comme je l'ai dit, certains enseignants, on l'a vu à l'évaluation là, on a dit qu'il y a à peine 35% qui sont bien, qui enseignent bien. Donc là, ça fait partie de l'évaluation. Est-ce qu'ils savent vraiment poser les questions, évaluer leurs élèves? Ça participe donc de cela. Parce que la plupart, on a dit, c'est des enseignants contractuels, donc ils n'ont pas été dans des écoles de pédagogie pour savoir doser les questions, etc. etc. là. C'est ça le problème. Mais en réalité, donc là, il n'y a pas tellement de problèmes. Si on prend par exemple les examens là...
Alors pensez-vous que les réformes là introduites d'année en année ont un lien avec ces résultats?
Bon, particulièrement, c'est les réformes là, il y a eu de multiples réformes au niveau de l'enseignement primaire. À mon avis, c'est un peu de trop. Et quand on fait une réforme, il faut l'évaluer d'abord avant de poursuivre. Et ce n'est pas malheureusement donc le cas. C'est sûr que ça a un coût. Même les enseignants ne se retrouvent pas. Ils ne comprennent même pas certaines méthodes qu'on leur enseigne. Donc c'est sûr que ça a un impact, peut-être même négatif, sur l'éducation. Si on prend par exemple donc les examens, au niveau des corrections, on prend généralement les enseignants qui tiennent donc les classes d'examen. Donc c'est ce qui est recommandé. Mais logiquement, un enseignant, donc s'il est au niveau du collège là, il doit pouvoir tenir n'importe quelle classe. Si c'est au lycée également, donc c'est pareil. Voyez-vous, donc il n'y a pas tellement de problèmes donc à ce niveau. Si l'enseignant donc ne sait pas bien faire son métier, c'est plutôt ça le problème. C'est pas l'évaluation en tant que telle. Mais j'ai un autre élément encore important. Peut-être qui pose problème là, si c'est ça au niveau de l'évaluation, c'est l'interdiction par exemple des cours de soutien organisés dans les écoles publiques et même privées, surtout au niveau des classes d'examen. Les enseignants là obligent quelquefois même les élèves, on veut le dire, à venir prendre cours. Et ça c'est contraire à l'éthique, à la déontologie. Et vous devez tout donner dans votre cours, vous devez faire votre cours comme il faut. Mais certains là, donc là je ne comprends pas, ils ne font pas assez d'exercices et autres, et maintenant ils obligent les élèves à venir prendre des cours supplémentaires. C'est pour ça que l'État a interdit donc cela. on met les élèves donc à des niveaux, celui qui ne paye pas, donc là, il pense qu'il ne va pas réussir ou autre, quoi. Il ne va pas au cours, parce que l'enseignant ne donne pas totalement donc, son cours comme il le faut. C'est peut-être à ce niveau-là donc, qu'il y a problème. Et si on a interdit ça, justement, on pense que dans ce cas-là, même l'évaluation donc, n'est pas correcte. Si l'enfant qui paye votre cours là, donc même s'il ne travaille pas, vous avez tendance peut-être à lui donner une bonne note. Et maintenant, celui qui ne veut pas, il est pénalisé.
D'accord. Monsieur l'inspecteur, quelles sont les conséquences de ces résultats scolaires pour le pays en général et la région en particulier, à court, moyen et long terme?
Avant de répondre à la question, j'aimerais un peu compléter. Donc, les grands frères, il y a des questions que nous posons par rapport à l'évaluation. Les élèves, selon les chiffres que nous avons, par exemple, cette année, si vous prenez dans la région, les textes disent d'évaluer, de faire au minimum 7 évaluations pour chaque enfant par semestre. Ils ont réussi 1,6 pour le premier semestre.
Sur 7.
En moyenne, 1,6 par discipline. Il est difficile à ce que les notes qui sortent de cette évaluation-là reflètent les niveaux des enfants. Et pour preuve, c'est ce qu'on a toujours vu au EPC, des attroupements ici. Un enfant à 13 a échoué. Un enfant avec 12 a échoué. Il y a un problème quelque part. Pour cerner le niveau d'un élève, il faut plusieurs évaluations. Donc maintenant, quand on fait la moyenne, on peut approximativement cerner son niveau. Et là, deux problèmes se posent. Certains enseignants parlent du pléthore dans les classes. Mais malheureusement, on constate que même dans les classes qui ne sont pas pléthoriques, les textes ne sont pas respectés. D'ailleurs, ils sont loin même d'être respectés. Des classes à 30 élèves, vous trouvez des évaluations tous les semestres. Donc, et ces évaluations ne sont pas faites normalement.
C'est peut-être le souci de terminer le programme?
Non, ce n'est pas une affaire de souci de terminer le programme parce que c'est des classes où même le programme, on ne les termine pas. Les gens, quelque chose est arrivé avec une paresse, mais n'est pas corrigé. Donc, ils font pour ne pas corriger. Donc, certains ont cessé de faire. Certains attendent le devoir commun. Mais il y en a des enseignants qui font, qui évaluent régulièrement, qui vont même au-delà de 7 et dans des disciplines difficiles à corriger. Nous avons l'habitude de trouver des enseignants de maths qui n'ont fait que des évaluations, là où celui de français a fait 8. Donc, ce qui se trouve, c'est ni une affaire des textes, ni une affaire des temps qu'ils ont pris pour la correction. C'est peut-être une défaillance administrative de la part de ceux qui sont chargés de suivre la régularité de ces évaluations-là. Maintenant, pour les conséquences que vous dites encore à long terme, je pense que tout le monde est témoin. Il y a un psychologue sur lui qui disait qu'il faut bien s'occuper de vous, bien d'eux à l'école, ou ils vont très bien s'occuper de vous dans la rue.
Oui.
L'homme doit vivre. Lorsqu'on ne prend pas le temps de l'enseigner, de l'éduquer, à un certain moment, il vient, mais il faut qu'il vive. C'est ça qu'on est en train d'assister. Les gens vont investir l'intelligence pour perturber la société. Ça sera des cambriolages, ça sera du type trucs rebelles, Boko Haram et autres. Donc, quand l'école jette des gens qu'on ne doit pas jeter, des gens qu'on n'a pas pris en compte, il y a une étude qui a montré que tous les dictateurs du monde, là, tous ceux qui ont fait des crimes du monde, d'Hitler jusqu'aux autres, ont été le fruit d'une erreur éducative. Parce que l'erreur médicale tue un patient. L'erreur éducative tue une société. Alors, lorsque on continue dans cette allure, déjà vous voyez certains quartiers de la ville ne sont pas facilement pénétrables à n'importe quel moment. Ces jeunes-là sont intelligents, ils sont forts, ils vont investir l'intelligence quelque part pour vivre. Donc, si nous ne faisons rien rapidement, nous sommes en train de fabriquer la machine qui va détruire notre société. Instantanément, ce que Chirac nous disait, le président français, on pensait qu'il s'est moqué de nous. Quand il est arrivé, donc au temps du fait présentant Jacques Lader, il disait qu'il a vu la jeunesse sortir l'accueillir. Il dit c'est une richesse lorsque vous arriverez à entretenir, mais c'est une bombe si vous échouez sur leur éducation. Donc les conséquences sont claires, on est en train de les présentement. Ils sont devenus eux-mêmes leur propre patron.
Alors, dernière question pour vous. L'échec, comme on l'a vu, il semble augmenter. Comment retrouver la performance d'autrefois?
Lorsque nous arriverons à voir l'enseignant qui est dans les conditions de faire le travail, du point de vue bagage intellectuel, du point de vue compétence et du point de vue situation sociale, semble qu'il faut en ce temps créer les conditions pour que les temps scolaires soient réalisés. Et ça, même ici localement, nous pouvons faire beaucoup pour que les temps scolaires soient réalisés. Lorsque le temps scolaire est réalisé, il y a des dynamiques qu'il faut souffler dans les établissements. Nous sommes en train de chercher dans une langue étrangère. Si vous prenez un enfant du collège, à part parfois qu'il récite sa leçon, nulle part il ne parle la langue. Nous avons fait beaucoup d'écrits qui montrent comment redynamiser un établissement. Il faut créer des clubs de théâtre. Il faut amener les enfants à faire des exposés. Il faut animer des conférences dans les établissements pour que les enfants puissent s'exprimer, clairement manipuler la langue. Il faut créer aussi des équipes du sport. Le sport, on le néglige, est fondamental dans la réussite pour que amène l'enfant à être dans les conditions de bien assimiler et de faire les apprentissages. Lorsqu'on arrivera à avoir l'enseignant, à mettre les entrants pédagogiques et didactiques nécessaires à l'enseignement, c'est-à-dire avoir les manuels, les fournitures, les labos, on en a que 8 maintenant dans la région, en ce temps-là, on doit faire vivre l'établissement. Et dans cette partie, au niveau régional, nous pouvons jouer au moins les 80%. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est peut-être la situation de l'enseignant. Mais tout le reste peut être pris en charge au niveau régional. Si nous sommes décidés à le faire, on doit se réunir, comme vous pouvez l'essayer, en un forum, pas comme on a fait la fois passée, où il s'agit nous-mêmes de décider de notre sort et de voir qu'est-ce que nous allons faire. Les 80%, localement, nous allons les régler sans problème.
Merci, monsieur l'inspecteur. Monsieur Gali, vous avez déjà commencé à citer quelques perspectives. Comment alors rendre le système plus performant?
Au niveau de la région des Andes particulièrement, j'ai toujours demandé une solution régionale. Il faut que les ressortissants de la région des Andes, donc indépendamment de toute idée d'ordre régionaliste, au moins qu'ils consacrent leur effort dans l'éducation au niveau de la région des Andes. Tout à l'heure, au niveau de l'introduction, vous avez dit qu'en tout cas, plus de 50% de la pyramide de notre population est très jeune. Les Andes, qui est la première région, on constate qu'effectivement, c'est la seule région aussi qui enregistre souvent un taux pas du tout religieux. Et là, je pense qu'avant d'attendre toujours à ce que l'État fasse ces efforts-là, il faut que nous-mêmes nous faisions notre propre mea culpa. Aujourd'hui, vous conviendrez, ça fait des années que Maradi tend toujours à doubler la région des Andes en termes d'effectifs. Et même en termes d'établissement, Maradi est très loin. Ça veut dire déjà une prise de conscience apparente de la population de Maradi. C'est ce qui n'est pas dans le cas ici au niveau des Andes. Au contraire, aux Andes, nous avons des zones où il y a toujours des difficultés, en tout cas qui se pose au niveau de nos écoles. Je pense qu'il faut qu'au niveau secondaire, le conseil régional puisse créer un cadre pour qu'on mette un comité chargé de réfléchir pour voir maintenant quelles sont les voies à suivre. Et l'une des premières voies à suivre, c'était une campagne de sensibilisation de la population qui doit en tout cas se passer afin que, tout à l'heure, comme Alain l'a dit, la population s'approprie de l'école. Le deuxième à suivre, aussi à Zander, nous avons une particularité, même au niveau du personnel enseignant. Au niveau du personnel enseignant, parce que c'est une des régions où beaucoup de nos camarades, particulièrement au primaire, vraiment enchantent d'aller en mouvement. Mais ce sont les mêmes aussi camarades qui ne prennent pas de retard lorsqu'il s'agit d'aller toucher leur revenu. Ça veut dire quoi ici? Il y a un problème de la conscience professionnelle.
Liman Tingiri, même question pour vous. Les résultats ne répondent pas aux attentes. Comment retrouver l'efficacité? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre, grosso modo, pour redresser la situation?
Les différents acteurs là qu'on a cités ont un rôle vraiment à jouer. Et le gros revient bien sûr donc à l'État. C'est lui qui régule la politique. Et c'est à l'État de faire donc le maximum. Et bien entendu, j'aimerais dire que donc le président, par exemple, dans son message à la nation, là, le dernier message à la nation, il a dit qu'il faut repenser donc l'école. Il a dit qu'il va veiller sur lui-même. Pendant la déclaration de politique éducative, là, il dit aussi qu'il faut restaurer l'enseignant dans son autorité et ses prérogatives. Donc tout ça là, c'est bon. Maintenant, à mon avis, c'est aux principaux ministres là d'engager donc les réformes, revoir les textes à ce niveau-là. J'ai écrit un article là, à un moment donné, là, sur la paralysie des structures de consultation de l'éducation. Vous voyez, ça n'existe pratiquement plus, alors que c'est quelque chose d'important, de nécessaire. On a maintenant, par exemple, des directions régionales IPR et autres pédagogiques. Dans le temps, il y avait des rencontres nationales. Ça n'existe pas. Donc ça aussi, vraiment, c'est nécessaire. Donc les consultations à l'échelle nationale entre les différentes régions, que ce soit au niveau pédagogique, les parents d'élèves, là, il n'y a plus de rencontres. Et il faut le dialogue. Et ce qu'il faut changer, à mon avis, déjà la contractualisation, là, on a compris, c'est juste un avantage financier, un gain pour l'État, mais il y a une catastrophe au niveau de la qualité de l'enseignement. Donc, il faut vraiment mettre fin, à mon avis, à cette contractualisation. Donc, il faut que le salaire soit consistant. Il ne faut pas qu'il y ait deux types d'enseignants, là. Il faut aussi rehausser le niveau de recrutement. Maintenant, on a des lycées partout et autres, là. Pourquoi pas prendre les bacheliers, donc, là. C'est dit quelque part dans certaines études, je le pense, là. Donc, il faut prendre les bacheliers pour en faire des instituteurs et autres, là. Les former. Et même les brevetiers, je ne vois pas l'inconvénient. Ceux qui travaillent bien, qui ont une mention, là, on peut aussi, ils peuvent aller se faire former et être enseignants. Mais vraiment, il faut rehausser le niveau de recrutement. Maintenant, il y a aussi donc les parents. Donc les parents, ils doivent s'impliquer. Il faut une éducation de base au niveau de la famille, avec des bonnes valeurs. Hein? Même si le parent, il ne peut pas aider dans les devoirs et autres, là, il doit quand même surveiller les fréquentations de son enfant. Et les élèves, eux-mêmes, il faut qu'ils sachent que donc c'est eux, comme on le dit, les dirigeants de demain. Mais ils ne peuvent être dirigeants que s'ils travaillent, s'ils fournissent l'effort.
Alors, merci, Monsieur Limantingiri. Nous sommes à la fin de ce forum. Nous retenons qu'il y a beaucoup de défis à relever, à commencer par la couverture de la frange importante de la population, le maintien des élèves jusqu'à la fin du secondaire, la qualité, l'équité, les débouchés comme facteurs qui concourent aux mauvais résultats et à la perte du temps scolaire, la faible implication des parents, l'environnement scolaire qui n'est pas favorable, la contractualisation ou encore la politisation de l'administration, donc l'État doit faire un effort pour concevoir des manuels scolaires au secondaire, valoriser la fonction de l'enseignant et la population également de son côté doit mieux s'impliquer dans l'éducation. Nous étions avec El Hadji Siraji Rabiou, inspecteur pédagogique régional de mathématiques à l'IPR de Zender, Monsieur Liman Tingiri, cadre de l'éducation à la retraite, Monsieur Gali Daouda, enseignant créé à main et secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, section de Zender. Merci et au revoir. Au revoir.